et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Il va louper le début. Mais c'est pas une heure pour prendre sa douche.
Et c'est sur l'autre radio. Je me demande toujours si l'auditeur de l'autre radio se souvient de cette première fois où il est tombé sur le 107.9, le 101.7, ce moment où il s'est très certainement senti saisi, séduit. Est-ce qu'il y repense parfois ou est-ce que c'est devenu banal, routinier, ces rendez-vous qu'il se donne ici sur nos ondes ? L'autre radio s'interroge, l'autre radio vous interroge, et là maintenant, on démarre ensemble l'agité du local. Et ici, les questions que l'on se pose sont celles du coin. D'ailleurs, mon invitée d'aujourd'hui est avec moi aujourd'hui au studio de Laval. Elle ne vient pas de très loin, de Loiron-Ruillé. Il s'agit de Mélanie Plancheneau. Mélanie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous nous venez du théâtre des Trois Chênes, vous en êtes la directrice et la programmatrice. Et ensemble, aujourd'hui, on regarde ce qui nous attend pour cette nouvelle saison dans quelques instants. Merci d'être avec nous. On écoutera également d'ailleurs Bruno Fléchard, responsable de la politique culturelle pour Laval Agglo, nous parler du projet culturel de territoire et des particularités du Théâtre des Trois Chênes en Mayenne. Ensuite, on retrouve ce nouveau petit format qui a rejoint l'émission. Il s'agit de la lecture de l'auditeur. L'un ou l'une d'entre vous nous a partagé un texte, des mots qui comptent, des mots qui touchent. Ça sera en seconde partie d'émission, juste avant de retrouver Donatien, notre chroniqueur du jour, qui chaque mardi nous fait à sa manière voyager. Ce sera encore le cas aujourd'hui, bien sûr. Voilà, l'agité du local commence. Je suis Margot et à mes côtés, je vous le disais aujourd'hui en studio, se trouve Mélanie Plancheneau, directrice et programmatrice du théâtre Les Trois Chênes. Mélanie, je parlais de routine en commençant cette émission. La routine, ça n'existe pas vraiment ou pas totalement quand on travaille dans un théâtre, j'imagine, quand on construit une programmation.
C'est vrai qu'on essaie de se renouveler. Déjà, bon, de toute façon, la matière artistique est tellement... C'est un fond énorme. Donc, on a toujours matière à puiser, justement, dans les œuvres que créent les artistes. Et puis, bien sûr, nous, on est là, l'équipe, pour inventer des choses, pour reconvoquer le public... Le rassembler à nouveau dans notre lieu, le surprendre d'une autre manière. Et c'est ce qu'on essaie de faire chaque année. Voilà, dans cette saison pluridisciplinaire, ça c'est vrai qu'on a cette marque de fabrique, mais on essaie dans ces rendez-vous tout au long de l'année d'avoir des petits moments un peu privilégiés au théâtre.
L'année passée, le Théâtre des Trois Chênes fêtait ses 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être ? Qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan de cette dernière saison ?
Le public était présent, donc ça c'est toujours une joie en fait, de bien sûr hein, que les artistes soient découverts, soient vus, soient entendus, et puis aussi pour nous en fait hein, de voir que le théâtre est fréquenté. On a eu une très belle fréquentation de 92%, voilà, on a les chiffres de taux de fréquentation, donc c'est vraiment ça traduit vraiment une envie de venir jusqu'à nous, et puis on a fêté les 10 ans et effectivement plus d'un millier de personnes sur 3 jours. Donc voilà, un moment où les gens se sont rassemblés à nouveau autour de ce lieu. C'était une belle grande fête avec des artistes, avec des collègues aussi partenaires, je pense au conservatoire, au réseau des bibliothèques. C'était un climat vraiment... vraiment bienveillant, agréable. Il a fait un temps magnifique. C'était une très belle bulle pour démarrer cette nouvelle saison. Et puis on avait de spectacles, et puis de rencontres, et d'échanges. Et puis on avait envie cette saison de rassembler un public sur 2 jours. Et voilà, on a concocté des événements justement pour ne pas être dans cette routine. On a plein d'idées. Et là, on s'est dit, on va concrétiser quelques envies en espérant que le public les partage avec nous.
Et donc, ce premier temps fort dont vous nous parlez, ça aura lieu le 5 et le 6 octobre avec un temps fort qui s'appelle Envie sauvage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, bien sûr, Envie sauvage, c'était un peu dans ma tête depuis plusieurs années. Je me suis dit, allez, hop, on essaie de concrétiser ça cette année. Le Théâtre des Trois Chênes, c'est un théâtre de la Laval Agglo qui se trouve à Loiron, c'est historique en fait, hein, l'ancienne com-com du pays de Loiron. Il est au cœur de la nature, voilà, il est près des chênes. près des haies, dans le bocage. C'est ce qu'on nous dit souvent, les artistes, le public, vous êtes vraiment au cœur de la nature, c'est trop bien, on s'y sent bien, etc. Nous-mêmes, équipe aussi, voilà, on apprécie vraiment cet écrin de verdure. Et l'idée, voilà, c'était de partager du temps ensemble dans ce lieu-là. Et là, effectivement, on a orienté sur, sur la nature, mais pas seulement, en fait, sur l'envie de se retrouver et puis peut-être de renouer avec d'anciennes traditions, enfin voilà, et surtout d'inviter des artistes qui justement mettent au cœur de leur œuvre la reconnexion, voilà, à ces savoirs un peu autour du végétal, du vivant, hein, du végétal, de l'animal, et puis aussi voilà, aussi du voyage et du partage culturel.
Notamment une artiste locale, je pense à Laetitia Davy avec Femme Oiseau, une performance dansée.
Oui, une très belle performance que j'ai pu découvrir à la Nuit des Musées. C'était au Manas en juin dernier. Bien sûr, on suit le travail de la compagnie Arzigote et Laetitia Davy. Et voilà, j'ai découvert cette performance lors de cet événement. Et voilà, tout de suite, je me suis dit, on finalisait vraiment la prog. Je me suis dit, ce serait vraiment incroyable, voilà, d'avoir ce moment de performance pendant ce temps fort autour de la nature, puisqu'en fait, la danse de Laetitia Davy dans cette performance, c'est une danse de l'instant. Elle incarne une œuvre d'art en mouvement. Elle puise en fait cette danse dans une tradition ancestrale. Ce sont les hommes oiseaux au Mexique. Au Mexique, les Valadores, donc on les appelle les hommes oiseaux, et c'est une chorégraphie aérienne qui est vraiment imprégnée de symboles. Elle connecte aussi sa chorégraphie, cette performance. Je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une danse de l'instant avec l'œuvre de l'artiste Ize, qui avait été d'ailleurs exposé au Manas. Voilà, donc ce ne sera pas une performance de 3 heures. Voilà, mais
il y a plusieurs
rendez-vous.
16h, 18h, 20h, puisqu'il va se passer pas mal de choses en fait sur ces deux journées-là.
Oui, oui, oui. Effectivement, l'idée c'était de proposer qu'on passe du temps aux trois chaînes. Et vraiment dans l'intimité, qu'on ait des moments d'atelier, des moments de spectacle, un moment de où je participe en tout cas à l'expérience de cette performance. Voilà, d'être tranquillement trois chèmes, en fait. Voilà, on ouvre aussi un bar avec des boissons végétales, une petite resto. Enfin, voilà, c'est de passer du temps ici tranquillement et dans l'intimité. Et voilà, on aura une série d'ateliers, atelier lutherie sauvage avec le conservatoire, un atelier encre végétale par Carole Dormoy de Lueur Végétale. C'est une artiste de Rennes qui proposera je fais une petite incursion dans cet atelier, qui proposera de prélever du végétal dans la nature autour des trois chaînes et de créer les encres pour créer une œuvre plastique. Voilà. Un coin aussi nature en livre avec la bibliothèque. Il y aura aussi la création d'un herbier en prélevant effectivement autour du théâtre des végétaux, le centre d'initiation à la nature. Nos collègues du CIN donc à l'Illustrie seront aussi présents avec des sorties à la découverte des arbres, voilà, autour des trois chaînes, des arbres et des haies aussi, et on ira sûrement aussi du côté de la faune, c'est quoi un peu l'écosystème du lieu. Voilà pour les ateliers. Et puis Cédric Cherdel, un chorégraphe et danseur nantais, nous rejoindra également pour sa conférence atelier conférence pratiquer le sauvage à la rencontre de son animal totem. Donc là il est à la fois dans un moment de conférence, c'est-à-dire il partagera avec un petit groupe de 8 personnes. À chaque fois ce sont des petits groupes pour vivre vraiment le moment de manière approfondie avec les artistes et les propositions. Donc partir à la découverte des différentes cultures à travers le monde, qui justement relie l'humain à l'animal, et notamment via cette figure de l'animal totem. Et puis ce sera découvrir son animal. Il y a un côté très très ludique, voilà. Il souhaite réanimer le sauvage, réanimer le sauvage en nous. Voilà, c'est une proposition à la fois sérieuse et à la fois ludique. Donc il y aura aussi ce corps en mouvement. Donc c'est pour un groupe d'une vingtaine de personnes.
Dès 12 ans.
Dès 12 ans. Voilà.
Et alors, ce qu'on peut préciser, là, tout ce qu'on évoque sur ces deux jours, c'est que finalement, c'est gratuit, sur réservation, à part le dernier temps, le dimanche, mais qui reste très, très accessible.
Oui.
C'est vraiment un rendez-vous pour qu'on se retrouve et puis que tout le monde est convié, tout le monde est invité sur ce temps-là.
C'est ça. Alors, juste pour terminer le samedi rapidement, on aura une sieste musicale autour du végétal par le groupe Séraphine. Ce sera à 17h dans les transats. Voilà, on prévoit le beau temps, forcément, ce week-end-là, pour être en extérieur. Après,
il sera là.
Voilà, on croise les doigts. De toute façon, on a prévu aussi un repli à l'intérieur pour ne pas devoir annuler. Mais voilà, une belle sieste musicale à 17h, hein, dès 8 ans, avec le groupe Séraphine autour du végétal. On est dans un écrin de sonore et de poésie végétale avec Florent Gauvry et Jean Gros. Il y a de la cora, du violoncelle, de la guitare. C'est une très, très belle proposition artistique. Et puis, on a invité nos amis de Grand Hôtel à venir nous rejoindre. Ils étaient là pour les 10 ans. Et puis là, on croise les doigts aussi pour un temps clément, pour proposer un feu à l'extérieur. Je vous parlais aussi de renouer avec ces moments en fait, où on se rassemblait, notamment on pense au feu de la Saint-Jean. Hein.
Exactement.
Qui sont encore organisés dans certaines communes. Mais voilà, de se retrouver autour d'un feu avec la musique de Grand Hôtel, cette musique voyageuse qui vont nous emmener plutôt dans les contrées américaines. Donc, on terminera cette journée avec ce concert à 20h30 de Grand Hôtel.
Donc, un concert au coin du feu. Et puis, le dimanche 6 avril, c'est Cavalcade en Cavalcasie. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, Cavalcade en Caucasie.
En Caucasie, voilà, c'est ça.
Le 6 octobre. ça, c'est un projet. Et je dirais que c'est pour monter ce programme de cet événement, je suis partie un peu de ce rendez-vous-là, de ce spectacle que j'avais découvert au Chénon l'année dernière, il y a un an. Un concert à la fois. Donc voilà, on est vraiment dans un univers sonore, mais aussi visuel, en fait. Hein. C'est un spectacle musical qui a de très beaux tableaux. C'est un spectacle de Frédéric Joannet, qui a découvert des archives sonores dans le Caucase, des archives sonores des années, de la musique des années 60 à 90. Et voilà, il s'est saisi de toute cette matière et il en a créé. Lui, c'est vraiment un homme orchestre. Hein. C'est un violoniste, mais aussi, là, il s'entoure de tout un instrumentarium qui va justement rappeler cet univers folklorique du Caucase et aussi un univers aussi assez imaginaire. Il crée le personnage de Raideur Nuage. Et voilà, on est embarqué dans ces carnets de voyage, en fait, imaginés. Il joue du violon, il a des chevaux mécaniques, des masques grelots, d'autres créations sonores improbables. Donc voilà, on a vraiment des belles chevauchées lyriques, de très belles mélodies assez brutes et de très folles rythmiques. Donc c'est tout autant visuel que musical. C'est à partir de 6 ans, le dimanche 6 octobre à 15h.
Effectivement, il y a un costume, il y a vraiment...
Oui.
J'invite nos auditeurs à aller regarder directement la programmation et à se laisser surprendre en se rendant à ce rendez-vous-là. On a pu le dire tout à l'heure en commençant cet échange, finalement, le Théâtre des Trois Chênes a une particularité, c'est qu'il se trouve au milieu des arbres, en zone rurale. Justement, on peut écouter tout de suite Bruno Fléchard, délégué communautaire, responsable de la politique culturelle pour Laval Agglo, qui nous dit quelques mots justement sur cette particularité du théâtre, ainsi que sur les actions mises en place par Laval Agglo pour l'accès à la culture pour tous. Écoutez.
Le Théâtre des Trois Chênes fait partie des outils dont on dispose pour notre politique culturelle. Je voudrais citer quand même toutes les autres actions qu'on peut avoir. Notre objectif est quand même d'aller apporter de la culture, soit en spectacle, en lecture, en enseignement musical, au plus proche de chaque habitant, quelle que soit la commune où il habite dans la Laval agglomération. Alors, il y a le 6x4, il y a le Zoom, le centre scientifique, il y a le réseau lecture, il y a bien sûr le conservatoire, il y a le théâtre de Laval et le théâtre des Trois Chênes, donc qui sont nos outils et qui nous permettent d'aller au plus près de chaque habitant pour présenter un peu de culture. Je salue le courage des élus de l'époque qui ont fait ce choix d'avoir une vraie salle de spectacle, un vrai théâtre en milieu rural, ce qui est assez rare. En général, à l'époque, le choix allait plutôt vers les salles polyvalentes. Et on mesure aujourd'hui combien cet outil permet de décliner le travail autour du spectacle vivant par tous ses aspects, que ce soit la diffusion, l'action culturelle, que ce soit aussi la formation, les rencontres avec les artistes, l'aide à la création. Vraiment, c'est un outil pour moi qui est magique et qui est extrêmement pertinent. Et voilà.
Le domaine culturel au niveau national questionne les finances financements alloués à la culture? Qu'est-ce qui est mis en place au niveau local pour maintenir et soutenir l'accès à la culture pour tous?
Le projet culturel de territoire, donc, qui a été voté au mois de mai dernier par l'agglomération, c'est un document de 60 pages qui a trois objectifs. Le premier objectif était de faire un inventaire exhaustif de tout ce qui se fait au niveau de la Val Aglo en matière de culture. Le deuxième objectif était de dessiner des projets, des envies, des enjeux à moyen et long terme. Et le troisième aspect important de ce document, c'est de décliner tout ce constat et ces objectifs en fiches actions. Il y a 16 fiches actions qui ont été déterminées pour orienter un peu notre travail jusqu'en 2027, au moins. Sur le public éloigné de la culture, je suis toujours un peu embarrassé pour répondre à cette question-là, parce que ça a l'air d'être de ne pas être bien, d'être éloigné de la culture. Il n'y a pas d'obligation à aller vers la culture. Et en même temps que je dis ça, je me rends compte que les gens consomment ou pratiquent l'activité culturelle au quotidien sans forcément en avoir conscience. C'est-à-dire on écoute de la musique à la radio, on voit ces enfants qui ont une pratique artistique avec le conservatoire. Il y a plein de choses du quotidien. On va voir un spectacle dans l'espace public. Moi, ce qui est important, c'est que les gens ouvrent leurs esprits, travaillent la tolérance, l'acceptation de l'autre. Et la culture est un outil parmi tant d'autres qui permet d'évoluer vers l'acceptation d'un monde un peu plus tolérant.
Est-ce qu'il y a un spectacle, un des rendez-vous de cette année pour le Théâtre des Trois Chênes qui vous interpelle?
Il faut oser aller vers ce qui nous apparaît un peu étrange. Mon expérience aussi de professionnel de la culture dans ma vie antérieure, les plus grandes émotions, les plus grands chocs émotionnels sont toujours vers les spectacles qu'on ne connaît pas, qu'on a pris souvent en option, en troisième spectacle pour avoir l'abonnement ou en cinquième. Parce que quand on va vers ce qu'on connaît, au mieux on est conforté par ce qu'on voit, au pire on est déçu par ce qu'on voit, mais le plus grand choc c'est quand on va vers l'inconnu en fait. Donc il faut oser ça.
Mélanie, on vient d'écouter Bruno Fléchard nous parler de la particularité du Théâtre des Trois Chênes sur le territoire. On le disait, c'est un théâtre au milieu des arbres, en zone rurale. Quelle particularité ça représente pour vous en tant que programmatrice, peut-être dans les choix que vous faites? Est-ce qu'il y a ce détail-là en tête, un détail qui n'en est pas un peut-être?
Eh bien, j'essaie de ne pas avoir des a priori sur les goûts des gens. chacun a son histoire, chacun... on peut être surpris par un accueil très favorable, par une grande ouverture d'esprit. Enfin voilà, j'essaie vraiment de ne pas partir de présupposés, mais plutôt de proposer une saison qui permette à des sensibilités différentes de se retrouver en fait. Aller vers l'inconnu, Bruno Fléchard le disait. Forcément, on a toujours j'ai toujours un peu le trac au début. Je me dis comment ça va prendre. Tout souvent on voit ça avec les premières résas quand on ouvre les abonnements. Mais moi, de l'expérience qui est la mienne, que je peux avoir au théâtre quand je discute avec les spectateurs, c'est qu'il y a une grande envie de découvrir en fait. Et justement, on parle d'abonnement, je découvre plusieurs spectacles dans l'année, je vais vers des propositions vers lesquelles je ne serais pas allée naturellement. Mais avec ces saisons pluridisciplinaires, je me rends compte que les gens vont voir du cirque parfois. Moi, le cirque, c'est pas mon truc, mais je viens parce que c'est aussi près de chez moi. Il y a cette proximité, ce théâtre de proximité permet aussi d'ouvrir, le champ de possibilités de découverte pour les spectateurs. Parce qu'ils sont pas très loin, parce que les tarifs sont attractifs et abordables surtout. Voilà. Donc en fait, c'est de permettre vraiment de ne pas partir sur des présupposés en fait. Et tant mieux si ça rejoint vraiment la sensibilité des gens. Mais c'est comme un film qu'on va voir au cinéma. Ça m'a pas trop touchée. Par contre, je me suis bien rendu compte que le réalisateur avait fait il y a un beau travail de photographie, une belle réalisation. Mais moi, ça ne m'a pas touchée. Mais un spectacle, c'est pareil. Pour moi, je dois garantir la qualité en fait du spectacle. Et d'ailleurs, les spectateurs ne s'y trompent pas, même si ça ne rejoint pas leur sensibilité. Ils peuvent se dire, super travail de mise en scène, il y a le jeu des comédiens. Par contre, moi, ça me rejoint moins ma sensibilité. Mais c'est ça aussi que le rôle aussi d'un théâtre, c'est de garantir justement d'avoir une proposition qui soit de qualité. Et après, voilà. Mais les gens reviennent. Hein, s'ils sont moins touchés, ils reviennent parce qu'ils savent qu'ils peuvent découvrir d'autres choses. Donc, c'est laisser les portes grandes ouvertes, en fait. Pour moi aussi, dans les choix qui sont opérés, mais aussi pour les gens qui viennent.
On s'est rencontrés il y a quelques semaines, justement, déjà pour se dire quelques mots sur cette nouvelle saison. Et justement, un des mots que j'avais retenu, qui est revenu souvent dans ce que vous avez pu nous dire, c'était ce mot sensible. Donc on parle de performance, tout à l'heure par exemple pour Laetitia Davy, performance dansée, il y a de la technique, mais la question qu'on se pose quand on est programmateur, c'est le sensible, à qui on s'adresse, comment on va toucher les gens, quel est le langage peut-être artistique.
Oui, bien sûr, je trouve que, je trouve que la sensibilité finalement, c'est peut-être un peu l'épine dorsale en fait aussi de... Enfin, en tout cas moi je le vois comme ça, hein, que ce soit un projet artistique et culturel, voilà, d'un lieu, les œuvres qu'on accueille, voilà, cette sensibilité,
Il y a ce qui vous touche, vous, et peut-être oui. Se dire mais alors le spectateur qui n'est pas moi, qu'est-ce qu'il va regarder, qu'est-ce qu'il va ressentir, les tranches d'âge selon les différentes classes sociales aussi éventuellement.
Bien sûr, les tranches d'âge, c'est vrai que les propositions artistiques, elles doivent aussi être accessibles. L'objectif, c'est aussi d'avoir des propositions pour une multiplicité de publics et de groupes de publics. Si je veux venir en famille, si on propose des spectacles qu'à partir de 12-15 ans, ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est aussi voilà, le plaisir d'accueillir des familles. Et je crois que c'est aussi le rôle de ce lieu, c'est d'accueillir un large public. Et notamment, voilà, on a des spectacles accessibles dès 3 ans, 6 ans, 12 ans. Enfin, voilà, et aussi des spectacles accessibles qu'à partir de 15 ou 16 ans. Parce que voilà, il y a certaines... paroles, en tout cas sujets qui sont abordés pour des publics plus grands, mais en tout cas c'est toujours l'objectif d'être effectivement dans une sensibilité aussi du projet envers des publics qui finalement sont eux aussi assez divers dans leur goût, mais aussi dans leur en fonction de leur âge.
Et alors, pour terminer notre échange, j'ai envie qu'on regarde ensemble peut-être un spectacle qui a lieu dans 2 jours, le jeudi 26 septembre à 20h30. Vous accueillez la compagnie C.O.Harry avec le spectacle Tsef Zone. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On a pu en voir un extrait, c'est intriguant.
Oui, c'est intriguant. Alors, c'est un nombre ton, c'est Rohari en fait.
Rohari, bon,
moi je disais Chohari au départ.
Bon.
Rapidement, j'ai bien vu que ça collait pas, donc c'est Rohari, ouais. Et c'est une compagnie bretonne, voilà, qui est une compagnie qui a été fondée par Nolwenn Ferry et Pauline Sonic. Elles ont été notamment formées au centre chorégraphique de la danse d'Angers, et elles sont bretonnes, hein, toutes les deux, et très vite dans leur travail d'artiste, finalement cet héritage, notamment du fest-noz, s'est invité dans leur création, et Tsef Zone, c'est fest-noz à l'envers. Voilà. Et dans cette pièce qu'elles ont créée, elles finalement reconvoquent sur scène toute la chaleur, toutes les échanges et la vitalité de la danse qui peut effectivement, qui s'opère d'ailleurs dans un fest-noz. Donc on retrouve, il y a deux danseurs, deux danseuses, et finalement on retrouve toute là, cette envie de partager un moment ensemble autour de la danse. Cette vitalité du fest-noz qu'on retrouve sur le plateau. Et puis c'est super parce que on retrouve à la fin, il y aura un temps, la pièce dure une vingtaine de minutes, et après il y a un quart d'heure de temps participatif où les gens se retrouvent ensemble sur scène pour danser. Donc là je me suis dit voilà, c'est vraiment un moment que j'ai vécu moi-même, voilà, qui était vraiment hyper chaleureux, et je me suis dit pour se retrouver en début de saison, voilà, c'est super d'avoir ce moment de rassemblement, le plaisir d'être ensemble sur cette soirée. On aura un tout petit temps avant de présentation de saison, on diffusera le film de saison. Voilà, c'est une soirée qui terminera à 22h par le verre de l'amitié, bien entendu, dans le hall du théâtre, et voilà, le plaisir de se retrouver, c'est gratuit. Il reste des places sur réservation conseillée, mais voilà, il reste de la place, donc n'hésitez pas même au dernier moment si vous avez envie de nous rejoindre.
Et donc, ce sera l'occasion effectivement de faire son petit repérage pour l'ensemble de la saison, prendre ses billets, mais également s'abonner. Vous pourrez expliquer sur place un petit peu, il y a un tarif qui s'adapte en fonction, par exemple, si on réserve directement pour 5 spectacles, je crois que le tarif est déjà...
Dégressif, oui, alors c'est à partir de 3 spectacles même.
3 spectacles.
À partir de 3 spectacles, c'est 9 euros le spectacle, et puis voilà, 9 euros aussi les suivants. Et puis jeudi soir, on fait gagner des abonnements. C'est dit, allez, hop,
c'est bien, ça c'est une bonne
nouvelle. C'est la fête.
Ça tombe bien.
Voilà, il y aura aussi des abonnements, 3 spectacles à gagner pour l'année. Voilà, donc c'est cet abonnement vraiment qu'on veut accessible. 3 spectacles minimum pour 9 euros par spectacle. Après, tous les spectacles sont à 9 euros.
Bon, eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Mélanie, d'être venue nous présenter donc cette nouvelle saison du Théâtre des Trois Chênes. Et donc, on ne manquera pas, de toute façon, dans cette émission, de faire des petits focus et d'annoncer les différentes dates qui nous ont marquées. Et là, c'est l'occasion, j'ai envie de dire, d'écouter un morceau du groupe Nomade que l'on pourra retrouver donc le 18 octobre à 20h30 au Théâtre des Trois Chênes. Et donc, on écoute tout de suite À l'aube. Merci beaucoup, Mélanie.
Merci.
À l'aube, je ris quand tout le monde dort. Moi, le grand toupie qui tourne et tourne encore. Toupie qui tourne et tourne encore. À l'aube, à l'aube, j'ai le cœur à lever des montagnes, donner des noms aux fleurs d'un jardin de coca, aux fleurs d'un jardin de coca. Je veux voir le jour et le voir encore, se lever et naître, naître dans l'aurore. Je veux voir le jour et le voir encore, se lever et naître, naître dans l'aurore.
Michel-Ange, tu sais plein de trucs sur lui. Sur son œuvre, sur ses choix politiques, sur lui et sur le pape, ses tendances sexuelles, tout le bazar, quoi. Mais je parie que ce qu'on respire dans la chapelle Sixtine, son odeur, tu connais pas. Si je te dis de me parler des femmes, tu vas m'offrir un topo sur les femmes que tu as le plus aimées. Mais tu ne sauras pas me décrire ce que c'est que de se réveiller près d'une femme et de te sentir vraiment heureux. Tu es un coriace.
Il y a certains mots mis dans un certain ordre que j'aurais aimé écrire moi-même et pour toi.
Lesquels ?
Eh bien, attends, écoute ça.
C'est un nouveau rituel, le mardi qui s'installe. C'est une lecture, un partage. Quelqu'un d'ici nous lit quelque chose qui compte, que ce soit un texte, une chanson, un dialogue de cinéma. Il n'y aura pas de mauvaises propositions. Ça suspend un peu quelque chose dans cette émission, je crois. Et aujourd'hui, Emma, c'est toi qui nous fais la lecture. Qu'est-ce qu'on va entendre ?
Alors, je vais vous lire L'art raffiné de l'ecchymose de Lucio Bukowski. C'est un rappeur et du coup, c'est le texte d'une de ses chansons. Je vois des toiles d'Odilon Redon, là où les rues sont noires. De belles histoires de suicide dans l'édition du soir. J'ai trié mes rêves, étiré mes vers, respiré les terres, resquillé les pertes et maquillé les cernes. Le monde dans la paume, j'ai accusé l'atome. Sur fond d'Alain Bachung, j'ai récusé la forme. Observer l'orage est une lutte mortelle. Le temps, le proxénète violent d'un rude bordel. Éviter les balles et l'apanage des grands, hors des eaux stagnantes du barrage des gens. Demain, je lirai Bergson et Adorno, la vie est bête et laide comme une actrice porno. Pourquoi les abeilles disparaissent-elles sans trace ? Pourquoi mes pareils disent que les pièces s'encrassent ? Ils jettent eux-mêmes leur saloperie au sol, chouillent en masquant le ton d'une bombe aérosol. Je sors de ma poche une vieille photographie, lui souris, la range et puis rêvasse assis. Échappé des griffes serrées de l'esprit servile, je suis un homme solitaire dans un Jean-Pierre Melville. J'aime la vie comme une femme aux yeux profonds. Dans le noir, je sens beaucoup mieux ses formes au fond. Pourquoi ces mots, quand je me sens muet, parvenant à peine à ébaucher ce que je voudrais exprimer, pas assez pour m'en approcher, pas de sens assez solide pour m'y raccrocher. Et c'est la chute l'a mis quand la lutte m'a dit qu'elle était perdue d'avance, je ne l'ai pas cru pardi. Tout me paraît vain durant ce court passage, de nos existences sous forme de lourds bagages. Laisser ses propres ruines comme l'ancienne Carthage, le souffle d'une bombe hache en guise de seul partage. Disons que j'ai mieux pour toi et moi, disons que je vise autre chose, la différence entre croire et voir. Et je m'échappe mieux des chapes que les charognards du temps, ont coulé dans l'océan furieux de chaque cœur. Varie en douleur selon les équinoxes, voici en quoi consiste la raffinée de l'ecchymose. Faire couler l'eau bouillante sur le sakura, laisser infuser sur un fond d'afoura. Songer que l'avenir est la seconde suivante et que la terreur est au pire enivrante. Je n'ai que l'arme de la vertu contre le rire du vice. Ces mots couchés sur du papier me tirent du vide. Verser le thé dans la tasse encore froide modifie les équilibres de leur monde stable. Connais-tu des hommes, des femmes de cœur sincère ? Si oui, demeure près d'eux, loin du décor infect. Ne pas désespérer est la première des trêves. Une chambre dans la zone qui réalise tes rêves. De la noirceur, je ne suis pas l'élève, mais le fruit étrange et inspiré que l'art élève. Accepter le doute, c'est remporter la guerre. La seule promesse de Dieu, c'est le retour en terre. Je leur parle d'amour, ils crient expiation. Ceci n'est pas un texte, c'est une expiration.
Si l'auditeur de l'autre radio nous rejoint maintenant, c'est l'agité du local. Le mardi, un auditeur, un Mayennais, nous lit quelque chose. Et Emma, aujourd'hui, tu viens de nous lire le texte « L'art raffiné de l'ecchymose » de Lucio Bukowski. Alors pourquoi ce texte ?
Alors du coup, c'est la première musique que j'ai écoutée de cet artiste-là. Et c'est un des artistes qui a fait que j'ai commencé à écouter du rap. Et depuis, j'écoute quasiment plus que ça. Et je le trouve très touchant, très bien écrit et très poétique.
Eh ben merci Emma.
Eh ben de rien, merci à toi.
Il a fallu un an pour intégrer dans cette émission la lecture de l'auditeur chaque mardi. Le mardi sera peut-être une journée un peu fétiche pour les amoureux des mots, je ne sais pas. Il y a bien déjà quelqu'un qui nous faisait souvent voyager le mardi. Aujourd'hui, c'est encore le cas, bien sûr. C'est notre chroniqueur Donatien. Et cette fin d'émission, c'est son moment. Alors on écoute.
Paris, la ville lumière. Rome, la ville éternelle. Venise, assurément la ville des amours. Donatien se souvient de son arrivée il y a longtemps à Alger, la Blanche, et beaucoup plus au nord, en Belgique, des promenades à Bruges, surnommées la Venise du Nord. C'est à Corfou que voyage Donatien aujourd'hui, une île qu'il aimerait découvrir dans la réalité, tant les paysages méditerranéens font rêver, une île où Donatien ne voyage que par la lecture d'un roman signé Gérald Derel. Si, au hasard des promenades, le touriste découvre des paysages enchanteurs et des villages pittoresques, au hasard des pages, le lecteur découvre dans ce roman le mot « pandémonium » qui, traduit de l'anglais, n'est autre que « la capitale des enfers ». Voici comment cette dimension infernale fait irruption sur cette île qui semble plutôt paradisiaque, avec son eau turquoise, ses plages abritées, ses ruelles pavées, ses façades colorées et ses toits de tuiles rouges. L'auteur, Gérald Derel, alors âgé de 10 ans et passionné de zoologie, a enfermé dans une boîte d'allumettes, pour la protéger, une femelle scorpion. Malheureusement, lorsque son frère Larry ouvre la dite boîte pour craquer une allumette à dessein d'allumer sa cigarette, voici ce qui se passa. La femelle scorpion se hissa hors de la boîte avec rapidité et se mit à trotter sur la main de Larry. Larry poussa un rugissement d'effroi. Lugaretsia en laissa tomber une assiette, ce qui fit sortir de dessous la table le chien aboyant férocement. D'une secousse, Larry lança la malheureuse bestiole sur la table où elle atterrit entre Margot et Leslie. Puis elle se dirigea vers Leslie, son dard frémissant d'émotion. Leslie se leva d'un bond, renversa sa chaise et à grands coups de serviette chassa l'insecte vers Margot qui poussa un hurlement de locomotive. Pour tenter d'arrêter l'avance de l'ennemi, Margot lui jeta un verre d'eau au lieu d'atteindre l'animal, l'autre en pas mère qui en eut le souffle coupé. Tandis que le scorpion se réfugiait sous l'assiette de Leslie, le chien, intrigué par la panique et décidé à y prendre part, se mit à courir autour de la pièce en aboyant frénétiquement. Plus que l'enfer, ce récit évoque pour Donatien les conteurs qui savent si bien vous faire partager leurs souvenirs de vacances. Il évoque aussi le désordre qui règne dans une salle de classe à la rentrée, lorsqu'une araignée tranquille ayant passé juillet-août à l'ombre d'un casier, d'une étagère ou parfois d'un pupitre, fait une irruption aussi spontanée que malheureuse sur la page blanche du cahier d'un collégien, déclenchant ce pandémonium que l'on retrouve si bien conté par le romancier anglais, mais aussi par Robert Lamoureux, lors de sa célèbre, souvenez-vous, chasse au canard.
Oh, à la maison, on a eu un truc terrible. On a reçu un canard vivant à la maison. On l'a reçu un dimanche matin. Oh, ben, maman a dit, elle dit, on va pas le tuer aujourd'hui. Elle dit, on va le laisser trotter jusqu'à demain matin. Elle dit, demain matin, on l'aura sous la main. Alors, le lundi matin, le canard était toujours vivant. On peut pas le retrouver. On le cherche partout. Il était monté sur le buffet, dis donc. Sur le buffet, il était là, tout là-haut, sur le buffet de la salle à manger. Oh, ben, papa, il dit, c'est pas dur. Il dit, c'est bien simple. Il dit, je sais pas comment il a fait pour monter là-haut. Mais moi, il dit, je vois bien comment on va faire. Il dit, il y a qu'à mettre la table. Il dit, sur la table, on mettra une chaise. Sur la chaise, on mettra un banc. Puis moi, je monterai sur le banc. On mettra même un bottin sur le banc. Et moi, je monterai sur le bottin. Et alors là, c'est là que le drame a commencé. Et quand je dis, parce que c'est papa qui est monté. Enfin, quand je dis qu'il est monté, c'est façon de parler, parce qu'on a tous eu l'impression qu'il passait son temps à descendre. Mais enfin, des fois même, il est tombé avant de monter sur la table, des fois. Et c'est quand la chaise a été sur la table que papa a commencé son numéro de voltige avec accessoires et double saut périocarpé. Alors ça a été émouvant, hein. Là, on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose, mais on pouvait pas prévoir que ce serait si grave que ça, forcément. Remarquez, de la façon qu'il s'y prenait, c'était forcé qu'on le ramasse à un moment ou l'autre, mais enfin... Même un gars du métier aurait pas pu penser que ça irait si vite. Alors, il a d'abord fait un rétablissement sur le dossier de la chaise avec monton dans un barreau, extension de la jambe droite et recroquevillement du mollet autour d'une rallonge. Ça a été sensationnel. Et tout de suite après, glissade sur les rotules avec tournoiement dans l'air et réception au tapis avec mâchoire sur radiateur. C'était fantastique. Et ça, c'était que le début, ça. Alors là, quand le soir vers 5 heures, on a vu la chaise sur la table, le banc sur la chaise et papa sur le banc, il y a eu un moment de silence et papa a dit, maintenant, vous allez me passer le bottin. De quelle année qu'il a demandé, maman? Alors il a dit, passe-moi suite 50, il dit, parce que suite 49, il manque 3 pages, je serais trop juste. Ça vous prenait là? Oh, ce monument que ça a été, mon. Et alors, là... Voilà, c'est ce qui a foutu tout par terre, c'est que chez nous, c'est pas haut de plafond. Alors quand le vieux s'est relevé sur le bottin en disant « ça y est, paf !» Il y a eu comme un bruit d'essai avec chute d'un avion lourd de B-212. Oh, maman, alors là ça a été... Si papa s'était pas raccroché au buffet, dans un sens, il y aurait eu que demi-mal, vu que des suspensions, on en trouve encore à bon marché, et que des glaces de tuiles cheminées, on peut en avoir avec des bons de lasmeuse. Mais enfin, le fait était là. Et alors, c'est que nous, on n'a rien vu du tout. Quand le buffet est tombé, on est tous rentrés dans le buffet, et il n'est plus question de... Maman était juste elle où c'est qu'il y a les raviers et la soupière en métal. La bonne, elle s'était filée la tête dans le tiroir où il y a les quittances. Et moi, j'étais dans le haut, avec ma timbale en zinc de première communion. Ça a fait un machin extraordinaire. Et puis alors, qu'est-ce que vous... Toujours est-il que le mardi matin, le canard était toujours vivant.
Et voilà, vous écoutez l'agité du local qui s'arrête maintenant, c'est terminé. Merci à Mélanie Plancheneau d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci évidemment à Donatien pour cette très belle chronique. Je vous laisse ici, mais pas sans vous dire un petit mot sur ce qui vous attend juste après. Et ce soir, c'est l'émission Au Catering à 19h qui ouvre le bal. Dans cette émission, ils sont nombreux et tant mieux puisqu'ils sont chouettes pour nous parler de leur dernière découverte musicale, des sorties plutôt récentes d'ailleurs. Ensuite, à 21h, ça restera musical avec l'émission Frères de Chaussures, c'est notre émission sur le rap français qui est bien sûr animée par Fatshu, vous le connaissez bien. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Je serai là, j'espère que vous aussi. D'ici là, restez sur nos ondes et comme je vous le dis chaque jour, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini. Oh ben, c'était bien, hein.